franceinter.fr.
Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel. Le manifeste des 343, Je me suis fait avorter, de Philippe Touzet. Réalisation, François Christophe.
J'essaye de lire ce que c'est. Hein? Ce qu'ils disent. Qu'est-ce que c'est?
Pour l'avortement libre et gratuit et une information pour la contraception.
Ils ont qu'à pas baiser.
Vous n'avez pas baisé, vous?
Si, mais enfin, attention. Toc.
Comment?
On me dit, je vais pas vous l'apprendre, non.
Article 317 du Code pénal.
Promulgué le 27 février 1810.
Quiconque, par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une amende de 1800 francs à 100 000 francs.
Ça s'est passé sur la table de la cuisine.
Article 317 du Code pénal.
Mon père me tenait la main droite, ma mère me tenait la main gauche.
Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 360 à 20 000 francs. La femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer.
J'ai pris le train, seul avec ma petite valise,
à elle indiquer ou administrer à cet effet.
À Bruxelles,
loi du
un médecin vendait des gouttes à verser dans de l'eau.
Article 3.
Il fallait boire à intervalles réguliers.
Sera puni d'un mois à 6 mois de prison et d'une amende de 100 francs à 5 000 francs. Quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura décrit, divulgué ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse...
C'est alors que j'ai pensé à une autre solution, la Suisse.
Les mêmes peines.
L'Angleterre avait trop mauvaise réputation. Paraît que c'était de la boucherie sans anesthésie.
Se sera livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité.
La dame est venue, elle a pris une sonde, elle a essayé à plusieurs reprises de la poser. J'avais très mal.
Loi du 27 mars 1923.
Je l'ai vu sortir une aiguille à tricoter.
La loi ne définit plus l'avortement comme un crime, mais comme un délit.
Excusez-moi d'intervenir, mais c'est ignoble.
L'avortement est un crime et en aucun cas un délit.
Cher ami, je vais vous expliquer, c'est assez subtil. Les crimes sont jugés devant une cour d'assises, composée d'un jury populaire. Vous me suivez?
Pas vraiment.
Les jurys populaires étaient trop enclins à s'émouvoir devant la détresse de ces femmes.
Ils étaient trop cléments.
Beaucoup trop. En faisant passer les avortements de crime à délit, ceux-ci furent jugés en correctionnel par un jury de magistrats. Si vous voyez ce que je veux dire.
Vous me rassurez, j'ai cru un moment que nous succombions à la tentation du laxisme.
C'était l'usine, mais par rapport aux faiseuses d'anges, c'était ce qu'il y avait de plus sûr. Dans l'après-midi, comme la douleur commençait à disparaître, je me suis promenée dans les rues d'Amsterdam.
Le 23 juillet 1937... création de brigades spécialisées dans la chasse aux avorteuses.
La loi du 29 juillet 1939 punit les femmes qui se croyaient enceintes et qui ont tenté d'avorter.
J'ai dû retirer la sonde au bout de 24 heures. J'avais trop mal. Mes amis m'ont protégée en me faisant des piqûres d'antibiotiques et un rappel antitétanique.
La loi du 15 février 1942 reconnaît l'avortement comme un crime contre la sûreté de l'État, passible de la peine de mort.
Après le curetage, on m'a mise vite fait dans un taxi sans un mot d'explication.
En 1943,
et j'ai eu très peur dans les jours qui ont suivi.
Marie-Louise
avec
Giraud
tout ce sang qui continuait
Désiré
de couler.
Pioge sont guillotinés pour avoir pratiqué des avortements.
J'avais 17 ans et la première fois a été la bonne. Mon prince charmant m'a dit « Qu'est-ce qui me prouve qu'il est de moi ?»
La loi du 15 février 1942 est abrogée à la Libération. Progressivement, les mentalités évoluent. La mortalité maternelle et infantile baisse. Les moyens de contraception se perfectionnent avec la découverte des œstroprogestatifs et du dispositif intra-utérin. La méthode Karman se diffuse en France, facilitant la pratique de l'avortement et la rendant moins dangereuse. En 1955, se crée le mouvement pour la maternité heureuse, qui deviendra le mouvement français pour le planning familial en 1960. l'opinion publique est de plus en plus favorable au contrôle des naissances. En 1967, la loi Neuwirth autorise une diffusion fortement réglementée de la contraception. En 1970, le MLF, Mouvement de libération des femmes, fait son apparition et bouscule tout sur son passage. La lutte pour la légalisation de l'avortement s'organise. Un soir de juin 1970, dans la salle de rédaction du Nouvel Observateur, Jean Moreau, chef du service documentation, et Nicole Muchnik, journaliste, ont une discussion animée à propos d'une idée qui risque de faire beaucoup de bruit.
Alors, qu'est-ce que t'en penses, hein ?
Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ! Un petit peu de pluie ferait pas de mal.
Mais qu'est-ce que tu penses de mon idée ?
Ah, tu vois, tu t'énerves. C'est à cause du temps, ça va éclater.
J'ai compris. Tu n'aimes pas mon idée.
Mais si, je l'aime, ton idée. Elle est belle, elle est magnifique. Mais ça demande réflexion. Faire signer une pétition...
Un manifeste.
Si tu veux. Écoute-moi, l'avortement est un sujet extrêmement sensible. Les femmes n'en parlent pas comme ça. C'est un secret. Souvent, la famille n'est au courant de rien. Parfois, le mari, le compagnon ne sait rien, et les enfants encore moins. La société ne cesse de culpabiliser depuis des siècles les femmes qui ont avorté. Elle les culpabilise au nom de la morale, de la loi, sans oublier la religion. Tiens, la voilà la Sainte Trinité qui opprime les femmes. Depuis la nuit des temps, la loi, la morale et la religion.
Maintenant, c'est toi qui t'énerve.
Tu as raison. Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Merci. T'as remarqué ? La société, la morale, la loi, la religion, c'est que des noms féminins. Il n'y a pas à dire les hommes, hein. Vous êtes passés maîtres dans l'art du camouflage. Et toi, tu veux que les femmes hurlent à la face du monde entier qu'elles ont avorté ?
Hurler, c'est un bien grand mot. Je souhaiterais qu'elles signent ce manifeste.
Qui fera la couverture du Nouvel Obs ?
C'est l'idée.
T'en as parlé à Jean-Daniel ?
Non, pas encore. Je préfère être sûr de mon coup avant d'aller le voir.
Tu sais que les signataires du manifeste s'exposeront à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.
Je sais, mais si nous faisons appel à des femmes célèbres, le gouvernement n'osera pas bouger le petit doigt. Politiquement, il sera au pied du mur.
T'es sûr de ça ?
Regarde ce qui s'est passé avec la cause du peuple. Les deux directeurs de publication ont été condamnés à 1 an et 8 mois de prison ferme. Du coup, Sartre a pris les choses en main, il est devenu à son tour directeur de publication, et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. On ne touche pas à Sartre.
On ne met pas Voltaire en prison.
C'est ce qu'a dit De Gaulle.
Admettons que les femmes connues du grand public signent le manifeste.
Et aussi des femmes venant de tous les horizons.
C'est un acte de désobéissance civile.
Exact. Mais c'est surtout que ça va faire un bruit pas possible. Nous allons propulser le débat sur le droit à l'avortement sur la place publique. Après ça, plus rien ne sera jamais pareil.
J'ai des amis au MLF. Ça te dirait de les voir ?
En France, le mouvement de libération des femmes, MLF, est composé de plusieurs groupes et courants. Il est à la fois l'héritier des luttes féministes historiques, du mouvement de mai 68, du Women's Lib américain naissant et des luttes pour le droit à la contraception et à l'avortement amorcées par le planning familial. Ces revendications portent sur l'égalité de tous les droits, moraux, sexuels, juridiques, économiques et symboliques. Le MLF lutte également contre les différentes formes d'oppression et de misogynie. Le mouvement de libération des femmes se fera surtout connaître auprès de l'opinion par ses opérations spectaculaires et provocatrices. Il jouera un rôle considérable et déterminant dans la lutte pour les droits des femmes. Tous les droits, à commencer par le plus élémentaire, le droit de disposer de son propre corps.
C'est vraiment une idée de merde.
Il n'y a qu'un réactionnaire au service du système capitaliste masculin qui peut croire que ce genre de conneries peut intéresser le MLF.
Je vous remercie.
Moi, je vous trouve un peu dur.
Nous, on trouve que t'es un peu molle.
Et ma main dans ta gueule. Ma main, elle est molle.
Oh là 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 là. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous.
Nicole a raison. C'est pas la peine de se donner en spectacle.
Et toi, là-bas, qu'est-ce que t'as à nous regarder comme ça? T'as jamais vu de réunion de famille?
S'il vous plaît. Si nous revenions à notre sujet de discussion. Bon. Alors, si j'ai bien compris, tu es moins catégorique que tes deux amis.
Oui, il faut utiliser la notoriété des personnalités pour faire passer notre message. Il suffit de 2-3 vedettes de cinéma et le gouvernement n'osera pas bouger, il fera pipi dans sa culotte. Et tout le monde va s'engouffrer dans la brèche.
C'est exactement ça.
Mais on n'a pas besoin de ces vedettes qui vivent dans les beaux quartiers.
Elles ont tout le fric qu'elles veulent pour se faire avorter.
On a besoin de tout le monde.
Elles sont à la solde du capital.
Mais avant tout, ce sont des femmes.
Ce sont des bourgeoises.
Je ne suis pas d'accord. Ce manifeste, c'est aussi l'occasion de combattre ces idées reçues qui nous séparent, nous, les femmes, aussi sûrement qu'un mur de briques. Nous avons besoin de tout le monde. Les intellos, les ouvrières, les artistes, les profs, les employés de bureau, les mères au foyer, les étudiantes et les bourgeoises. Car nous sommes avant tout des femmes.
Ouais. En tout cas, il est hors de question que ce manifeste passe dans la presse pourrie, Carpette et compagnie.
Et qui passe son temps à lécher le cul des puissants.
Alors on va faire quoi? On va tirer une centaine d'exemplaires sur la Renéo qu'on va distribuer au marché d'Aligre.
Le Nouvel Observateur offrira une visibilité nationale à ce manifeste.
Si nous voulons jeter un pavé dans la mare, autant que la mare soit la plus grande possible, non?
On pourrait demander à Simone ce qu'elle en pense.
Pour en parler avec les autres.
Je crois que la première démarche que j'ai faite en tant que féministe, ça a été de signer le manifeste qu'on a appelé des 343 salopes, disant que nous avions avorté. Où il y avait des noms connus et il y avait des noms beaucoup moins connus. Mais dans l'ensemble, c'était une revendication des femmes pour l'avortement. Parce qu'on pensait que si nous disions que nous avions avorté, eh bien, on aurait dû nous arrêter. Mais comme, en fait, le gouvernement n'a pas osé nous arrêter, implicitement, il fermait les yeux sur la question. Si les choses étaient un peu différentes, si les tâches de l'élevage des enfants étaient mieux réparties entre l'homme et la femme, bon, s'il y avait aussi une aide de l'État beaucoup plus considérable qui permette qu'il y ait des crèches, des nurseries, des maternelles, etc., etc., et puis qu'on enlève à la femme la mauvaise conscience qui lui vient d'une manière atavique à travers sa propre mère, sa propre grand-mère, bon, après ça, la maternité, pourquoi pas? Je pense que c'est une chose assez belle que de voir, en effet, naître, grandir, se développer un être humain. Mais tel que c'est aujourd'hui, c'est vraiment pour la femme un piège dans lequel elle ne peut que laisser sa liberté et son bonheur.
Au sein du MLF, les discussions à propos du manifeste sont longues et mouvementées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les avis sont très partagés quant à la pertinence du projet. Finalement, le mouvement décide de contacter Simone de Beauvoir. À l'époque, l'auteur du deuxième sexe est la figure de proue du féminisme. Celle-ci comprend tout de suite l'intérêt politique, médiatique et sociétal de cette initiative. À partir de ce moment-là, le projet devient réalité. Après moult hésitations concernant la présentation et le contenu du manifeste, c'est finalement Simone de Beauvoir qui écrira ces quelques lignes qui feront date.
1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre.
Comme on dit en radio, c'est fort et clair.
Oh, un texte de Simone de Beauvoir, on pouvait pas rêver mieux.
Je monte voir Jean-Daniel.
Attends, on a le texte mais on n'a pas les signataires, attends un peu.
En effet, le plus dur reste à faire. Il faut maintenant convaincre des sœurs, des amis, des collègues de travail de signer le manifeste. Pour certaines, le fait de voir jeter son nom sur la place publique est un obstacle insurmontable. Pour d'autres, la crainte de subir des mesures de rétorsion, pour ne pas dire de représailles dans leur milieu professionnel, est également un frein à leur engagement. Toutes les femmes ne sont pas des vedettes de cinéma ou des romancières à succès. D'un autre côté, les personnalités artistiques et intellectuelles prennent le risque de voir leur image sérieusement écornée auprès du grand public. Grâce à une forte mobilisation, les signatures affluent de tous bords. De la star à l'employé de bureau, de la philosophe à l'ouvrière, les barrières sociales n'existent plus, elles se fondent dans une cause commune. Le manifeste est ressenti comme une nécessité. Par contre, une question, toujours la même, revient sans cesse dans les discussions au sein du MLF et ailleurs. Faut-il confier le manifeste au Nouvel Observateur? Pourquoi pas Le Monde, journal de référence, ou Politique Hebdo, un hebdomadaire qui rassemble socialistes et militants d'extrême gauche? Simone de Beauvoir contacte Pierre Lazareff, le patron de France Soir. Tout ceci a le don d'agacer Jean Moreau.
sœurs. Elles discutent entre elles, elles cherchent la meilleure solution. Elles hésitent.
Et tant qu'elles y sont, elles n'ont qu'à contacter le Figaro ou Canard Enchaîné. Et pourquoi pas le Times, ou alors encore mieux, le Washington Post.
Calme-toi.
J'en ai parlé à Jean Daniel. Je vais avoir l'air de quoi, moi, si je lui dis qu'on a fait tout le boulot et que c'est un autre canard qui récupère la mise.
Il y a encore le temps. La collecte des signatures n'est pas terminée. Tu sais que ça marche très fort. Elles en sont à près de 300.
Je te remercie de retourner le couteau dans la plaie.
Oh, ne t'inquiète pas.
Mais si, je m'inquiète.
Finalement, Pierre Lazareff déclinera la proposition de Simone de Beauvoir. Les membres du MLF n'ont pas particulièrement confiance dans la direction du nouvel observateur. La préparation du numéro se déroule dans une atmosphère tendue. Tout est sujet à négociation. Après des heures et des heures de discussions acharnées, le directeur de l'hebdomadaire s'engage à publier les noms et prénoms de toutes les signataires et accorde au MLF une tribune d'une page intitulée « Notre ventre nous appartient ». Une note de bas de page indiquera que, parmi les signataires, des militantes du mouvement de libération des femmes réclament l'avortement libre et gratuit. Le 5 avril 1971, le numéro 334 du Nouvel Observateur sort dans les kiosques. Il publie en une, sur la couverture de l'hebdomadaire, la liste des 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter ». L'onde de choc est considérable. C'est un mur qui s'effondre. Un cri de révolte traverse le pays. La société française ne peut plus se boucher les oreilles. Elle ne peut plus se réfugier derrière des articles de loi indignes du pays des droits de l'homme. Un homme sur deux est une femme. Bien sûr, la polémique prend des proportions ahurissantes. Mais c'est trop tard, c'est fait. Plus rien ne peut arrêter cette revendication légitime. Les mots de Simone de Beauvoir et la tribune du MLF survolent la France et pénètrent les consciences à la vitesse du vent. Un vent de tempête.
Avortement. Mot qui semble exprimer et limiter une fois pour toutes le combat féministe. Être féministe, c'est lutter pour l'avortement libre et gratuit.
C'est le manifeste des queues ensanglantées.
Il va de soi que nous n'avons pas, comme les autres êtres humains, le droit de disposer de notre corps.
C'est le Gotha de l'avortement du tout Paris.
Pourtant, notre ventre nous appartient.
L'avortement libre et gratuit n'est pas le but ultime de la lutte des femmes. Au contraire, il ne correspond qu'à l'exigence la plus élémentaire. Ce sans quoi, le combat politique ne peut même pas commencer.
Naïvement, je croyais qu'il fallait être deux pour faire un enfant. Et c'est bête! Avec un bon gonne-michet, une réserve spermatique et une seringue, la femme sera enfin libérée.
Il est de nécessité vitale que les femmes récupèrent et réintègrent leur corps.
Le nouvel observateur est l'ami des putes.
Chaque année, 1 500 000 femmes vivent dans la honte et le désespoir. 5 000 d'entre nous meurent, mais l'ordre moral n'en est pas bousculé. On voudrait crier.
L'avortement libre et gratuit, c'est ne plus avoir honte d'être une femme. Un ego qui fout le camp en petits morceaux. C'est ce qu'éprouvent toutes les femmes qui doivent pratiquer un avortement clandestin.
C'est le manifeste de la honte. Un défi à la morale et à la famille.
Je ferai un enfant si j'en ai envie. Nulle pression morale, nulle institution, nul impératif économique ne peut m'y contraindre.
Le nouvel observateur est l'ami des putes.
Nous ne voulons pas une meilleure loi, nous voulons sa suppression pure et simple. Nous ne demandons pas la charité, nous voulons la justice.
Aux fascistes de tout poil, qu'ils s'avouent comme tels et nous matraquent, ou qu'ils s'appellent catholiques, intégristes, démographes, médecins, experts, juristes, hommes responsables, nous disons que nous les avons démasqués, que nous les appelons les assassins du peuple, que nous leur interdisons d'employer le terme « respect de la vie », qui est une obscénité dans leur bouche, que nous sommes 27 millions, que nous lutterons jusqu'au bout, parce que nous ne voulons rien de plus que notre dû, la libre disposition de notre corps.
vont pas avec le dos de la cuillère.
C'est sûr, c'est pas un poème de Ronsard.
Notre cher président, grand amateur de poésie devant l'éternel, n'a pas dû apprécier ce type de littérature.
Pompidou est comme les autres, il est tétanisé.
Tu crois qu'il n'engagera pas de poursuite judiciaire contre les signataires?
Non, tu avais raison. Politiquement, c'est impossible. Ça remettrait de l'huile sur le feu, t'imagines? 343 femmes qui se rendent en même temps au tribunal.
C'est sûr, ça ferait du foin. Ce serait une tribune inespérée.
Ils viennent de se prendre une belle gifle devant tout le monde. Ils vont pas attendre l'autre jour.
C'est pas le genre de la maison. Peut-être qu'ils vont attendre tout simplement que ça se tasse.
C'est trop tard. Ils peuvent fermer les fenêtres, le manifeste a défoncé la porte. S'ils n'engagent pas de poursuite judiciaire contre les signataires, ça veut dire que toutes ces lois qui réglementent l'avortement, enfin, qui interdisent l'avortement, je devrais dire, sont obsolètes.
L'opinion publique est en train d'évoluer.
Le monde est en train de bouger. Nous sommes dans une période charnière, unique dans l'histoire contemporaine. Les politiques ne peuvent pas rester statiques au risque de se faire balayer.
C'est un peu ça le problème. Les politiques ne créent pas le mouvement, ils ne font que le suivre.
Pas toujours. Et c'est vrai que c'est souvent le cas. À partir du moment où ils ne s'opposent pas à tout changement.
Ça, c'est la dictature.
Tu sais, nos régimes dits démocratiques sont aussi très forts pour ne rien bouger, ne rien toucher, surtout pas de vagues.
Avant les élections municipales.
Les élections législatives.
La présidentielle.
Sans oublier les cantonales.
T'as vu? On reçoit encore des signatures.
Le mouvement est enclenché et rien ne pourra plus l'arrêter. Il n'y a pas que le droit à l'avortement. Il y a aussi à travail égal, salaire égal, la parité en politique, à l'Assemblée, au Sénat. Pourquoi pas, un jour, une femme présidente? Et des femmes dans les conseils d'administration, à la tête de grandes entreprises.
Et aussi à la radio, la télévision, une femme qui dirige un grand quotidien.
Nous sommes en 1971.
Dès sa sortie, le numéro du Nouvel Observateur obtient un succès national et international retentissant. Le 6 juin de la même année, l'hebdomadaire allemand Stern publiera le manifeste « Nous avons avorté », signé par 374 Allemandes. Une semaine après la diffusion du manifeste en France, l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo signera, d'après un dessin de Cabu, une couverture qui va rester dans les annales de la presse écrite. Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement? Ce raccourci caricatural, prenant pour cible le conservatisme brutal d'un pouvoir politique réactionnaire, va s'inscrire durablement dans la mémoire collective de notre pays. Le manifeste des 343 devient le manifeste des 343 salopes, même si cette appellation provocante ne fait pas l'unanimité parmi les signataires. En 1971, l'association Choisir, mouvement de lutte pour la dépénalisation de l'avortement, est créée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi. En octobre et novembre 1972, le procès de Bobigny devient le procès politique de l'avortement. Défendue par maître Gisèle Halimi, Marie-Claire, une jeune fille de 16 ans ayant avorté à la suite d'un viol, bénéficie d'une relaxe. Ce jugement pulvérise la loi de 1920. Lors d'une conférence de presse, le président Pompidou doit reconnaître que concernant l'avortement, la législation en vigueur est dépassée. En avril 1973, le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, voit le jour. Ce mouvement, très actif et rencontrant une large adhésion, revendique deux types d'actes illégaux, les avortements sur place, grâce à la méthode Carman, et les départs collectifs pour avorter à l'étranger. Le 17 janvier 1975, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, entre en application. Durant le débat à l'Assemblée, le climat est tendu et certains propos sont indignes de la représentation nationale. Cette loi, proposée par Simone Veil, ministre de la Santé du gouvernement Chirac, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, est adoptée en grande partie grâce aux voix des députés de gauche. Malgré l'avancée considérable que représente cette loi, celle-ci est malgré tout et à bien des égards particulièrement restrictive. L'IVG n'est pas remboursée par la Sécurité sociale et la loi n'est votée qu'à titre provisoire. Elle sera définitivement confirmée par le Parlement le 31 décembre 1979. En 1982, le remboursement par la Sécurité sociale est voté. Depuis la loi du 4 juillet 2001, le délai légal est allongé à 12 semaines et l'autorisation parentale pour les mineurs n'est plus obligatoire. Le manifeste des 343 est un maillon essentiel dans la lutte pour la dépénalisation de l'avortement. En donnant leur nom à la cause commune des femmes, se privant ainsi d'un anonymat protecteur ou d'un silence culpabilisant, les signataires du manifeste ont su s'opposer avec force et courage à des lois profondément injustes.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile. Si c'était moins difficile. S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel, le manifeste des 343 « Je me suis fait avorter » de Philippe Touzet, avec Philippe Bautier, Nathalie Blanc, Pauline Moinjon-Vallès, Emmanuel Granger, Marie Daude, François Perrache, François Hatte et Georges Serre. Présentation Stéphanie Duncan, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Bernard Laniel et Émilie Couette, assistant à la réalisation Vivien Demeyer, réalisation François Christophe. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr.
Et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe. Depuis si longtemps je t'aime. Mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse. Qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'essaie.